Le passage du jour à la nuit est l'un des événements les plus émouvants qui soient. Quand le soleil disparaît sous l'horizon, le ciel continue d'être illuminé quelques instants encore. Ce soir, la nuit d'observation promet d'être belle. Ce soir, suite de notre désir de nuit, avec donc Trin, Xuan, Tuan. Mais comme chaque soir, nous allons commencer en musique et ce sera Johnny Hallyday, Retiens la nuit.
Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Dans sa course vagabonde, serre-moi fort contre ton corps. Il faut qu'à l'heure des folies, le grand amour raye le jour et le fasse oublier la vie. Retiens la nuit avec toi, elle paraît si belle. Retiens la nuit, mon amour, qu'elle devienne éternelle pour le bonheur de nos deux cœurs. Arrête le temps et les heures, je t'en supplie à l'infini. Retiens la nuit, ne me demande pas d'où me vient ma tristesse. Ne me tu ne comprendrais pas. En découvrant l'amour, je frôle la détresse. En croyant tout bonheur, la peur entre en mes joies.
Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Retiens la nuit
pour nos cœurs dans sa course vagabonde. Serre-moi fort contre ton corps. Il faut qu'à l'heure des folies, le grand amour raye le jour et ne fasse oublier la vie.
Retiens la nuit.
Avec toi, elle paraît si belle.
Oh, retiens la nuit.
Qu'elle devienne éternelle pour le bonheur de nos deux cœurs. Arrête le temps et les heures, je t'en supplie à l'infini. Retiens la nuit, oh je t'en supplie à l'infini. Retiens la nuit.
Je ne sais pas si vous savez retenir la nuit, Trin, mais ce que je sais, c'est que vous avez vécu votre enfance et votre adolescence au Vietnam et que cette chanson de mon adolescence, vous l'écoutiez au Vietnam, mais que pour vous, la nuit, c'était plutôt le danger et les bruits des bombes.
Tout à fait. À ce moment-là, la nuit, au lieu d'être amicale, comme maintenant, était plutôt une nuit de menace. Parce que la nuit... je pouvais pas sortir dehors, dans la campagne, par exemple, parce qu'il y avait toujours des risques de batailles rangées, de guérilla, des troupes communistes. Au loin, le fracas des bombes des B-52 qui faisaient la terre trembler, les vitres vibrer. Tout cela, c'était des connotations de mort plutôt que de vie, vous voyez. Et en fait, je n'ai connu que la paix de la nuit, la sérénité de la nuit, que quand je suis allé en Suisse en 1966, après mon bac, j'ai fait mon bac au lycée français de Saigon, le lycée Jean-Jacques Rousseau. Mais pour aller à des études supérieures, je voulais d'ailleurs aller en France, à faire les maths sup, maths spé. Vous savez, j'avais réservé une chambre à Louis-le-Grand, mais... Patatras, le général de Gaulle, fait un grand discours à Phnom Penh. disant que les États-Unis n'avaient rien fait au Vietnam, qu'ils devaient se retirer. Colère du gouvernement sud-vietnamien qui rompt les relations diplomatiques avec la France. Donc plus possibilité d'aller en France. Je me suis rabattu sur Lausanne, l'école polytechnique de Lausanne, qui avait une très très bonne école d'ingénieurs et qui était francophone en plus. Je parlais pas l'anglais à ce moment-là et je suis resté un an là. Puis après l'appel de l'Amérique m'a quand même attiré vers la Californie au Caltech et c'est là où j'ai découvert les grands télescopes et l'astronomie.
Est-ce que les nuits suisses étaient plus tranquilles que les nuits vietnamiennes?
Oui, tout à fait. Les nuits suisses étaient... Pour la première fois, je pouvais goûter la paix, vous voyez. Et ça me faisait un effet bizarre de pouvoir marcher dans la nuit et me dire que, bon, il n'y aura pas de danger, il n'y aura pas de balles perdues, de coups de feu, etc. Donc, c'était un étrange sentiment de paix. Mais je l'ai découvert seulement quand je suis parti en dehors du Vietnam. Parce que les deux guerres du Vietnam, je les ai vécues. Vous voyez, d'abord la guerre indo-chinoise contre les Français, et puis la guerre américaine, bien sûr.
Est-ce que c'est parce que dans l'enfance et l'adolescence, vous n'avez pas trouvé la paix la nuit, Trinh Xuân Thuan, que vous êtes devenu astrophysicien et astronome pour pouvoir observer tranquillement la nuit pendant des nuits plus que tranquilles et très occupées?
Peut-être de manière subconsciente, peut-être pas de manière consciente. J'étais quand même très, très, très impressionné par le télescope de 5 mètres de Mont Palomar à Caltech, là où j'étais, California Institute of Technology, c'était à Pasadena, en Californie. C'était le plus grand télescope du monde à ce moment-là. Et ça veut dire qu'il regardait le plus loin dans l'univers et donc il pouvait remonter le temps de quelques 5 milliards d'années, vous voyez. Je pouvais regarder le plus loin et donc... Et puis, il y avait beaucoup de découvertes scientifiques à ce moment-là qui faisaient en quelque sorte que ça faisait l'âge d'or l'astronomie. Par exemple, et beaucoup se faisaient sur le campus d'ailleurs, un de mes professeurs a découvert les quasars qui sont des galaxies qui hébergent un trou noir supermassif de quelques milliards d'années de masse solaire dans leur centre. Donc, ces trous noirs supermassifs dévorent à tout va des étoiles et donc ils brillent très très, ça s'appelle des quasars. Puis on a découvert des étoiles de neutrons, ce qu'on appelle des pulsars. On a découvert, ça c'était en 1967, les quasars c'était en 1963. On a découvert aussi le rayonnement fossile de l'univers qui en fait... C'est la chaleur qui reste à l'instant de la création. Vous savez, on pense maintenant que l'univers est né dans un état très petit, très chaud, très dense, qu'on appelle le Big Bang. Et puis, il y a une expansion, une explosion énorme. Et la chaleur qui reste de cet instant, l'univers était très chaud à ce moment-là, 10^32 degrés, c'est-à-dire 1 suivi par 32 zéros. Et il s'est beaucoup refroidi à cause de l'expansion de l'univers, de la dilution de l'univers. Mais on le voit encore. Et c'est ça qui est la preuve du Big Bang, en fait. Et donc, ça s'est découvert en 1965. Et puis, 69, c'est Neil Armstrong qui met les pieds sur la Lune, vous voyez. Et donc, tout ça, c'est pour un jeune esprit en cherche, en quête d'une vocation scientifique. C'était l'astronomie, c'était vraiment un domaine où on pouvait contribuer. Même si on n'était pas des génies, vous voyez, c'est parce que l'univers regorge tellement de mystères que donc je me suis dit, allons dans l'astronomie, c'est comme ça. Je suis tombé dans la marmite de l'astronomie et puis après ma licence au Caltech, je suis allé à Princeton University, l'université de Princeton, au New Jersey, donc c'est la côte Est maintenant. Et c'est là où j'ai fait ma thèse, mon PhD.
Quelle définition donneriez-vous de la nuit? Est-ce que cette définition, pour vous, Trinh Xuân Thuan, a évolué depuis les 40 dernières années?
Oui, je pense que la nuit est devenue beaucoup plus amicale et la nuit me permet donc de capter cette lumière qui me connecte au cosmos, la lumière des étoiles et des galaxies, vous voyez. Vous savez, il y a... dans l'univers observable, qui est de 47 milliards d'années-lumière, il y a environ 100 000 voies lactées. 100 milliards de voies lactées. Et chaque voie lactée contenant 100 milliards de soleils. voyez, donc ça, c'est le contenu de l'univers. Où que vous pointez vos télescopes, vous voyez des galaxies et des étoiles. Mais en fait, ce n'est, on le sait maintenant, que ce n'est que 5% du contenu de l'univers. En fait, on ne sait pas 95% de l'univers. Il y a une énorme masse noire, une énorme énergie sombre. Donc, on n'est aucunement la nature. Donc, en fait, l'astronome a beaucoup à apprendre encore. Mais la nuit, c'est maintenant le moment où je peux capter cette lumière distante des galaxies lointaines et des étoiles lointaines.
Je vous propose d'écouter la voix de André Brahic, que vous connaissez,
oui,
qui va parler de pollution lumineuse et de son expérience de dormir à la Belle Étoile. C'était une archive du 17 décembre 2009. André Brahic.
Et quand on regarde le ciel, que l'on ait 80 ans, 110 ans, ou 3 ans, ou 7 ans, c'est extraordinaire. Et actuellement, nous ne voyons plus le ciel à cause de la pollution lumineuse. Savez-vous, actuellement, 50% de la population mondiale ne voit plus la Voie lactée. Or, je dis à tout le monde, allez passer quelques nuits à la Belle Étoile quand il n'y a aucune lumière dans les 400 km à la ronde. Ce qui m'est arrivé un jour, il n'y a pas très longtemps, dans les airs du Ténéré, dans le Sahara. Je voulais aller voir une éclipse de soleil, donc j'étais parti dans le Ténéré avec un long voyage. Et moi qui aime bien mon confort, les hôtels confortables, être assis à l'avant des appareils, etc. Mes amis rigolaient en disant « Jamais André ne pourra dormir à la Belle Étoile comme ça ». Eh bien là, il n'y avait aucune lumière, je ne voyais plus la Terre. Donc je flottais dans l'espace. J'étais un autre homme et je me dis « Mais c'est tellement beau, je ne vais pas dormir ». Et en fait, 5 minutes après, je dormais comme un loir. Et si jamais je me réveille dans la nuit, pas besoin de regarder une montre. La Voie lactée avait tourné comme les aiguilles d'une montre. Je savais si on était au milieu de la nuit ou à la fin de la nuit. Et j'ai compris, cette nuit-là, ce qu'avaient ressenti nos ancêtres, il y a 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans. Ceux qui ont démarré la philosophie, les grandes questions. Qui sommes-nous? Que faisons-nous? Où allons-nous? Est-ce qu'il y en a d'autres? Comment tout ça a démarré? Quel est notre futur? Etc. On ne peut pas ne pas se poser ces grandes questions de philosophie. On ne peut pas ne pas aimer la peinture, la sculpture, la musique. On ne peut pas ne pas aimer la poésie quand on voit tout cela. Et on comprend que science, littérature, tout ça est lié. Et c'est pour ça que j'en veux encore à Napoléon III qui un jour a séparé le baccalauréat scientifique et le baccalauréat littéraire. Alors que l'on voit des scientifiques qui ne savent pas écrire français et des littéraires qui disent « Oh, les mathématiques, j'y comprends rien ». Alors que tout ça, c'est un même élément de la culture. Et tout ça démarre en voyant le ciel. Alors quand j'étais petit, je voyais pas le ciel parce que je suis né à Paris, j'habitais dans une ville où il y a de la pollution lumineuse. De temps en temps, là, à la campagne, dans l'Ardèche de mes ancêtres, je voyais de beaux cieux, mais ça n'a rien à voir avec un ciel où il n'y a pas de lumière aux alentours. Bon, je suis astronome professionnel, donc nous allons observer au Chili, nous allons observer à Hawaï, nous allons observer en Australie, à des endroits où il n'y a pas beaucoup de lumière. Mais il y a toujours une petite lampe électrique, il y a toujours l'ampoule du restaurant, une voiture qui passe en veilleuse. Rien que ça, ça trouble votre regard. Pour vraiment voir le ciel, il faut rester dans l'obscurité totale pendant un bon quart d'heure, ne rien voir d'autre et ne pas avoir de lumière parasite, je dirais dans les dizaines de kilomètres aux alentours. Une bougie à 20 km, ça va vous perturber. Parce que ce qu'on voit est moins lumineux que la bougie en question. Mais vos yeux sont tellement bons qu'ils le voient. Nous avons perdu cela. Et ça, c'est un élément de culture essentiel. Et souvent, en plaisantant, au moment des élections municipales, je dis que je voterai pour le maire qui supprimera l'éclairage public, élément de culture qui a disparu, hélas.
Eh bien, on pourrait introduire cette proposition dans le débat présidentiel, moins de pollution lumineuse, comme vient de le dire André Brahic. Trinh Xuân Thuan, vous parlez de cette pollution lumineuse, vous parlez de vos nuits à observer la nuit et ce qui se passe.
À Hawaï, justement, dont il parlait.
Oui, à Hawaï dont il parlait. Oui. Mais vous, vos nuits, elles sont super occupées. Comment vous rentrez en expédition pour observer la nuit? C'est déjà tout un travail mental, mais vous dormez pas à la Belle Étoile parce que
non.
Et vous a fallu des années pour vous inscrire dans les plus grands télescopes du monde et vous êtes dans une espèce de cabine avec des ordinateurs partout et des télescopes pour observer la nuit. Donc il s'agit pas de dormir là.
C'est ça. Donc c'est vrai que c'est un moment de enfin, de bonheur, mais aussi de stress, parce qu'il faut beaucoup, comme vous dites, le temps est très précieux. Il y a peut-être une dizaine de télescopes avec des ouvertures, vous savez, des miroirs de l'ordre de 5 mètres, ou plus. Les plus grands télescopes sont de l'ordre de 10 mètres maintenant. Et on est en train de construire des télescopes de 30 mètres de diamètre. Parce que plus, bien sûr, le télescope est grand, plus il peut capter de lumière et plus il peut voir faible, et plus il peut voir loin et plus il peut remonter le temps. Parce que la lumière met du temps à nous parvenir. Et donc, en remontant le temps, nous reconstruisons l'histoire de l'univers. Voyez. Et donc, dans ma contribution, ma modeste contribution, j'étais à Hawaï, par exemple, et j'observais des galaxies naines, parce que je pense que ce sont des galaxies qui sont les briques de l'univers. On pense que mon domaine, c'est la formation et l'évolution des galaxies, comment elles sont nées. Et on pense qu'elles sont nées pendant les quelques premières centaines de millions d'années après le Big Bang. D'ailleurs, le nouveau télescope qui va prendre la suite de Hubble, qui s'appelle James Webb Telescope, vous savez qu'il y a un télescope de 6,5 mètres, Hubble n'est que 2,4 mètres. Et donc, je croise les doigts pour que tout se passe bien, parce que c'est un télescope fabuleux. Ça coûte 10 milliards de dollars. Et Hubble sera à 600 km au-dessus de la surface terrestre. Webb sera à 1,5 million de kilomètres. Donc, vous voyez, s'il y a un pépin, il n'y aura pas de navette spatiale pour aller réparer. Hubble, on l'avait réparé plusieurs fois. D'ailleurs, au début, il voyait Mugnop. Et nous, les astronomes sur Terre, ça s'arrachait les cheveux. La NASA ne s'est pas découragée. Il a envoyé une équipe d'astronomes. Parce que qu'est-ce qu'on fait quand vous voyez Mugnop? Vous allez chez votre opticien. Vous achetez une paire de lunettes. Les astronomes ont apporté une paire de lunettes, enfin, donc un système optique à Hubble. Et depuis 1990 maintenant, plus de 30 ans maintenant, vous voyez, ils nous rendent ces bons et loyaux services, nous envoyant des images de toute beauté qui ont complètement changé notre vision du monde, notre histoire des origines, parce que comme André Breit l'a dit tout à l'heure, l'homme est connecté à l'espace parce que nous sommes tous les poussières d'étoiles. Nous sommes les enfants des étoiles. Et sans les étoiles, nous ne serons pas ici pour en parler. Et donc, comprendre l'histoire, l'origine de l'univers, cette histoire de 13,8 milliards d'années, c'est comprendre l'histoire de nos origines. D'où venons-nous? C'est la question. Et où allons-nous? Donc, ce sont des problèmes, des questions métaphysiques, philosophiques qui importe aussi aux scientifiques.
En quoi ce nouveau télescope, donc, qui va voir le jour et qui va rentrer en fonction en cette fin d'année 2021, va-t-il nous donner peut-être des nouvelles informations sur ce que veut dire la nuit, selon vous, Trine Swantwaan?
Oui, ça va nous donner des observations sur l'univers. Et bien sûr, c'est la nuit tout autour, parce que dans l'espace, vous savez, bien que ce soit... Même, par exemple, près de chez nous, quand c'est inondé de lumière du soleil. La lumière est paradoxale en ce qu'elle éclaire les choses, mais en elle-même, elle n'est pas visible s'il ne rencontre pas quelque chose. Disons, notre rétine, par exemple, le miroir d'un télescope ou la palette d'un peintre. C'est comme ça que vous voyez les pigments, les couleurs de la peinture d'un peintre. Donc, la lumière et la nuit vont toujours ensemble. Vous voyez, maintenant, toutes les étoiles sont là, mais on ne les voit pas parce que la lumière du soleil nous aveugle. Mais dès que la nuit tombe, dès que le soleil va au-dessus de l'horizon, vous voyez, c'est la nuit et la nuit tombe et je peux capter cette précieuse lumière qui me vient de milliards d'années, hein, même avant que les atomes de mon corps soient faits par la fusion nucléaire dans une étoile. Donc, de milliards d'années même. Et donc, c'est vraiment... la nuit me permet de me connecter au cosmos, de remonter à mes origines.
Donc, au début, était la nuit à l'origine du monde, Trine Swantwaan. D'abord, la nuit ou l'obscurité.
Non. C'était parti d'un vide rempli d'énergie.
Et un vide qui était tout noir.
Non, il y avait l'énergie quand même, beaucoup de photons. Et en fait, au début, mais l'univers était tellement dense que la lumière ne pouvait pas se propager. Il se butait toujours contre les électrons. Enfin, la matière est faite d'électrons, de protons, de neutrons, vous voyez. Et donc, l'univers, au début, c'était une purée de particules. L'univers était opaque et donc la lumière ne pouvait pas se propager. Et donc, on ne pouvait rien voir. Ça, c'est vrai. Et puis, finalement, l'an 380 000, les électrons se combinent avec les protons et les neutrons pour former des noyaux d'hydrogène et d'hélium. Ce sont les deux seuls éléments qui sont faits dans le Big Bang, en fait. Tous les autres éléments, comme l'argent, l'or, le carbone, l'oxygène, tout ça, c'est fait par les étoiles. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que nous sommes des poussières d'étoiles, que nous sommes nos enfants des étoiles, que nous partageons tous la même géologie cosmique, que nous sommes les cousins des coquelicots des champs et les frères des bêtes sauvages. Voilà, donc parce que nous partageons la même histoire cosmique.
Alors la nuit est noire, enfin elle est de moins en moins à cause de la pollution lumineuse de toutes les grandes mégapoles et ce à travers le monde.
Tout à fait.
Mais le jour peut être noir aussi. À l'intérieur de votre magnifique livre qui s'appelle « Une nuit », vous parlez des éclipses.
Oui.
Il arrive qu'à la nouvelle lune, notre satellite s'aligne exactement sur le soleil et la Terre, éclipsant ainsi la lumière du disque solaire. La nuit tombe en plein jour.
C'est un endroit, un lieu magique où on peut observer l'éclipse. Et c'est un temps très précis parce que ça dure peut-être deux à trois minutes, vous savez. Et André Baïk parlait tout à l'heure qu'il était dans le désert pour regarder une éclipse solaire. Mais il faut, sur Terre, il faut être au bon endroit, au bon moment. Et en fait, l'ombre de la Lune n'est qu'une bande de 200 km qui part toujours, et c'est à cause de la rotation de la Terre. Vous voyez, quand vous êtes dans l'ombre de la Lune, sur la Terre, vous ne voyez rien. Donc, le disque solaire est bloqué. Et quand la Terre, en tournant, vous emmène en dehors du long de la Lune, le soleil réapparaît. C'est comme si pendant quelques minutes, vous voyez, la nature s'arrête en quelque sorte. Les oiseaux s'arrêtent de chanter, la température diminue, et tout d'un coup, le soleil, pendant deux ou trois minutes, disparaît complètement. Et ça, c'est vraiment un moment magique, et je recommande à tout le monde, s'il n'a pas vu. Il y avait quelques années, je pense, une éclipse totale qui a traversé la France d'ailleurs. Et moi, je l'ai observé d'ailleurs en Normandie, vous voyez, c'était pas très loin d'ici. Et j'espère que beaucoup de Français l'ont vu, parce que c'est une expérience merveilleuse, inoubliable.
Vous êtes un grand scientifique, Trinh Xuân Thuan, mais vous êtes aussi un poète et un homme épris de littérature. À l'intérieur de ce livre qui célèbre la beauté, la puissance de la nuit, vous avez introduit des textes de littérature, et notamment celui de Guy de Maupassant qui s'intitule « La nuit, nous l'écoutons ».
J'aime la nuit avec passion. Je l'aime comme on aime son pays ou sa maîtresse, d'un amour instinctif, profond, invincible. Je l'aime avec tous mes sens, avec mes yeux qui la voient, avec mon odorat qui la respire, avec mes oreilles qui en écoutent le silence, avec toute ma chair que les ténèbres caressent. Les alouettes chantent dans le soleil, dans l'air bleu, dans l'air chaud, dans l'air léger des matinées claires. Le hibou fuit dans la nuit, tache noire qui passe à travers l'espace noir et, réjoui, grisé par la noire immensité, il pousse son cri vibrant et sinistre. Le jour me fatigue et m'ennuie. Il est brutal et bruyant. Je me lève avec peine, je m'habille avec lassitude, je sors avec regret. Et chaque pas, chaque mouvement, chaque geste, chaque parole, chaque pensée me fatigue, comme si je soulevais un écrasant fardeau. Mais quand le soleil baisse, une joie confuse, une joie de tout mon corps m'envahit. Je m'éveille, je m'anime. À mesure que l'ombre grandit, je me sens tout autre, plus jeune, plus fort, plus alerte, plus heureux. Je la regarde s'épaissir, la grande ombre douce tombée du ciel. Elle noie la ville comme une onde insaisissable et impénétrable. Elle cache, efface, détruit les couleurs, les formes, étreint les maisons, les êtres, les monuments de son imperceptible toucher. Alors j'ai envie de crier de plaisir comme les chouettes, de courir sur les toits comme les chats, et un impétueux, un invincible désir d'aimer s'allume dans mes veines. Je vais, je marche, tantôt dans les faubourgs assombris, tantôt dans les bois voisins de Paris, où j'entends rôder mes sœurs les bêtes et mes frères les braconniers. Ce qu'on aime avec violence finit toujours par vous tuer. Mais comment expliquer ce qui m'arrive? Comment même faire comprendre que je puisse le raconter? Je ne sais pas, je ne sais plus, je sais seulement que cela est. Voilà. Donc hier était-ce hier? Oui, sans doute, à moins que ce ne soit auparavant, un autre jour, un autre mois, une autre année, je ne sais pas. Ce doit être hier pourtant, puisque le jour ne s'est plus levé, puisque le soleil n'a pas reparu. Mais depuis quand la nuit dure-t-elle? Depuis quand? Qui le dira ? Qui le saura jamais? Donc hier, je sortis comme je fais tous les soirs après mon dîner. Il faisait très beau, très doux, très chaud. En descendant vers les boulevards, je regardais au-dessus de ma tête le fleuve noir et plein d'étoiles découpées dans le ciel par les toits de la rue qui tournaient et faisaient onduler comme une vraie rivière ce ruisseau roulant des astres. Tout était clair dans l'air léger, depuis les planètes jusqu'au bec de gaz. Tant de feux brillaient là-haut et dans la ville que les ténèbres en semblaient lumineuses. Les nuits luisantes sont plus joyeuses que les grands jours de soleil. Sur le boulevard, les cafés flamboyaient. On riait, on passait, on buvait. J'entrais au théâtre quelques instants. Dans quel théâtre? Je ne sais plus. Il y faisait si clair que cela m'attrista et je ressortis le cœur un peu assombri par ce choc de lumière brutale sur les ors du balcon, par le scintillement factice du lustre énorme de cristal, par la barrière du feu de la rampe, par la mélancolie de cette clarté fausse et crue. Je gagnais les Champs-Élysées où les cafés-concerts semblaient des foyers d'incendie dans les feuillages. Les marronniers frottés de lumière jaune avaient l'air peints, un air d'arbres phosphorescents. Et les globes électriques, pareils à des lunes éclatantes et pâles, à des œufs de lune tombés du ciel, à des perles monstrueuses, vivantes, faisant pâlir sous leur clarté nacrée, mystérieuses et royales les filets de gaz, de vilains gaz sales, et les guirlandes de verre de couleur. Je m'arrêtai sous l'Arc de Triomphe pour regarder l'avenue. La longue et interminable avenue étoilée, allant vers Paris entre deux lignes de feu, et les astres là-haut, les astres inconnus jetés au hasard dans l'immensité où ils dessinent ces figures bizarres qui font tant rêver, qui font tant songer. J'entrai dans le bois de Boulogne et j'y restai longtemps, longtemps. Un frisson singulier m'avait saisi, une émotion imprévue et puissante, une exaltation de ma pensée qui touchait à la folie. Je marchai longtemps, longtemps, puis je revins. Quelle heure était-il quand je repassais sous l'Arc de Triomphe? Je ne sais pas. La ville s'endormait, et des nuages, de gros nuages noirs s'étendaient lentement sur le ciel. Pour la première fois, je sentis qu'il allait arriver quelque chose d'étrange, de nouveau. Il me sembla qu'il faisait froid, que l'air s'épaississait, que la nuit, que ma nuit bien-aimée devenait lourde sur mon cœur. L'avenue était déserte, maintenant. Seul, deux sergents de ville se promenaient auprès des stations des fiacres et sur la chaussée à peine éclairée par les becs de gaz qui paraissaient mourants, une file de voitures de légumes allait aux halles. Elles allaient lentement, chargées de carottes, de navets et de choux. Les conducteurs dormaient, invisibles. Les chevaux marchaient d'un pas égal, suivant la voiture précédente, sans bruit, sur le pavé de bois. Devant chaque lumière du trottoir, les carottes s'éclairaient en rouge, les navets s'éclairaient en blanc, les choux s'éclairaient en vert, et elles passaient l'une derrière l'autre, ces voitures rouges, d'un rouge de feu, blanches, d'un blanc d'argent, vertes, d'un vert d'émeraude. Je les suivis, puis je tournai par la rue Royale et revins sur les boulevards. Plus personne, plus de cafés éclairés, quelques attardés seulement qui se hâtaient. Je n'avais jamais vu Paris aussi mort, aussi désert. Je tirai ma montre. Il était 2 heures. Une force me poussait, un besoin de marcher. J'allais donc jusqu'à la Bastille. Là, je m'aperçus que je n'avais jamais vu une nuit si sombre, car je ne distinguais pas même la colonne de Juillet, dont le génie d'or était perdu dans l'impénétrable obscurité. Une voûte de nuages, épaisse comme l'immensité, avait noyé les étoiles et semblait s'abaisser sur la terre pour l'anéantir. Je revins. Il n'y avait plus personne autour de moi. Place du château d'eau, pourtant, un ivrogne faillit me heurter, puis il disparut. J'entendis quelque temps son pas inégal et sonore. J'allais. À la hauteur du faubourg Montmartre, un fiacre passa, descendant vers la Seine. Je l'appelai. Le cocher ne répondit pas. Une femme rôdait près de la rue de Rouault. « Monsieur, écoutez donc !» Je hâtai le pas pour éviter sa main tendue, puis plus rien. Devant le vaudeville, un chiffonnier fouillait le ruisseau. Sa petite lanterne flottait au ras du sol. Je lui demandai « Quelle heure est-il, mon brave ?» Il grogna « Est-ce que je sais ?» J'ai pas de montre. Alors je m'aperçus tout à coup que les becs de gaz étaient éteints. Je sais qu'on les supprime de bonne heure avant le jour, en cette saison, par économie. Mais le jour était encore loin, si loin de paraître. Allons aux Halles, pensais-je. Là au moins je trouverai la vie. Je me mis en route, mais je n'y voyais même pas pour me conduire. J'avançais lentement, comme on fait dans un bois, reconnaissant les rues en les comptant. Devant le Crédit Lyonnais, un chien grogna. Je tournai par la rue de Grammont. Je me perdis. J'errai. Puis je reconnus la bourse aux grilles de fer qui l'entoure. Paris entier dormait, d'un sommeil profond, effrayant. Au loin pourtant, un fiacre roulait, un seul fiacre, celui peut-être qui avait passé devant moi tout à l'heure. Je cherchais à le joindre, allant vers le bruit de ses roues, à travers les rues solitaires et noires, noires, noires comme la mort. Je me perdis encore. Où étais-je? Quelle folie d'éteindre sitôt le gaz! Pas un passant, pas un attardé, pas un rôdeur, pas un miaulement de chat amoureux. Rien. Où donc étaient les sergents de ville? Je me dis, je vais crier, ils viendront. Je criais, personne ne répondit. J'appelais plus fort, ma voix s'envola sans écho, faible, étouffée, écrasée par la nuit, par cette nuit impénétrable. Je hurlais, au secours, au secours, au secours. Mon appel désespéré resta sans réponse. Quelle heure était-il donc? Je tirai ma montre, mais je n'avais point d'allumette. J'écoutais le tic-tac léger de la petite mécanique avec une joie inconnue et bizarre. Elle semblait vivre. J'étais moins seul. Quel mystère! Je me remis en marche comme un aveugle, en tâtant les murs de ma canne, et je levai à tout moment les yeux vers le ciel, espérant que le jour allait enfin paraître. Mais l'espace était noir, tout noir, plus profondément noir que la ville. Quelle heure pouvait-il être? Je marchais, me semblait-il, depuis un temps infini, car mes jambes fléchissaient sous moi, ma poitrine haletait, et je souffrais de la faim horriblement. Je me décidai à sonner à la première porte cochère. Je tirai le bouton de cuivre, et le timbre tinta dans la maison sonore. Il tinta étrangement, comme si ce bruit vibrant eût été seul dans cette maison. J'attendis, on ne répondit pas, on n'ouvrit point la porte, je sonnai de nouveau, j'attendis encore, rien. J'eus peur. Je courus à la demeure suivante, et 20 fois de suite, je fis résonner la sonnerie dans le couloir obscur où devait dormir le concierge. Mais il ne s'éveilla pas. Et j'allai plus loin, tirant de toutes mes forces les anneaux ou les boutons, heurtant de mes pieds, de ma canne et de mes mains les portes obstinément closes. Et tout à coup, je m'aperçus que j'arrivais aux halles. Les halles étaient désertes, sans un bruit, sans un mouvement, sans une voiture, sans un homme, sans une botte de légumes ou de fleurs. Elles étaient vides, immobiles, abandonnées, mortes. Une épouvante me saisit, horrible. Que se passait-il? Oh mon Dieu! Que se passait-il? Je repartis. Mais l'heure! L'heure! Qui me dirait l'heure? Aucune horloge ne sonnait dans les cloches ou dans les monuments. Aucune horloge ne sonnait dans les clochers ou dans les monuments. Je pensais, je veux ouvrir le verre de ma montre et tâter l'aiguille avec mes doigts. Je tirai ma montre. Elle ne battait plus. Elle était arrêtée. Plus rien, plus rien, plus un frisson dans la ville, pas une lueur, pas un frôlement de son dans l'air, rien, plus rien, plus même le roulement lointain du fiacre, plus rien. J'étais au quai, et une fraîcheur glaciale montait de la rivière. La Seine coulait-elle encore? Je voulus savoir, je trouvai l'escalier, je descendis. Je n'entendais pas le courant bouillonner sous les arches du pont. Des marches encore, puis du sable, de la vase, puis de l'eau. J'y trempais mon bras. Elle coulait, froide, 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 presque gelée, presque tarie, presque morte. Et je sentais bien que je n'aurais plus jamais la force de remonter, et que j'allais mourir là, moi aussi, de faim, de fatigue et de froid.
Comment les artistes, comment les écrivains, en l'occurrence Guy de Maupassant, ont-ils pu nous conduire vers la vérité de la nuit? D'ailleurs, je ne sais pas si ça existe, ce mot de vérité de la nuit, Trinh Xuân Thuan.
Non, chacun a sa vérité, je pense. Il y en a des gens qui n'aiment pas la nuit, parce que la nuit aussi, c'est une nuit de menace, comme je parlais tout à l'heure de la guerre, mais aussi peut-être qui contient des loups-garous, des vampires, des fantômes, etc. Donc c'est chacun qui s'approprie la nuit. Vous voyez, pour moi, la nuit est maintenant devenue amicale et elle met en valeur l'univers et elle me, comme je vous dis, me connecte à l'univers. Mais il y a d'autres personnes. Maupassant, bien sûr, moi Il adore la nuit et pour lui le jour est un boulet en quelque sorte. Mais il y a aussi j'ai choisi des poètes qui préfèrent la nuit, mais il y a des gens aussi qui préfèrent le jour. Donc la nuit n'est pas elle suggère des sentiments différents chez différentes personnes.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez cette série consacrée à la nuit, avec l'astronome Trinh Xuan Thuan et nous allons écouter les Moody Blues. Vous en souvenez sûrement, Trinh's Night Days in White Satin.
In White Satin.
Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you'll be in the end. And I love you.
Avec est plus sombre que la nuit, comme le remarquait Mallarmé, qui a dit justement que le mot nuit est plus clair que le mot jour. J'épouse cette vision paradoxale. Que le jour soit plus clair que la nuit, c'est une évidence. Mais, d'après ma perception, la clarté du jour est une lumière déjà donnée là. On en profite ou on a subi selon l'humeur du moment. Tandis que dans la nuit, on passe d'abord dans la plongée de l'obscurité avant de se retrouver dans la disposition de capter la moindre lueur qui s'offre. Une allumette qui craque, une luciole, une étoile, qui se signale du fond de la voûte céleste. Pour peu qu'on ait un esprit mystique, on vit par là l'expérience illuminante de toucher la naissance ou la source de la lumière. Cela me fait penser d'ailleurs à l'expression consacrée de la nuit mystique. Je crois que un mystique a la nostalgie d'atteindre l'état originel où il pourrait assister au jaillissement même de la première lumière lorsque Dieu a dit « que la lumière soit ». Voilà le poème. Nuit qui réunit, nuit qui désunit, qui diminue, qui démunit. Rien qui n'y soit à jamais aux abois ceux qui s'éveillant se souviennent. Car la nuit avait beau tendre sa toile, sur l'océan s'est égarée une voile. Nuit qui essuie, nuit qui guérit, qui déconseille, qui désemplit. Rien qui n'y soit désormais à l'abri ceux qui, se souvenant, reviennent. Car la nuit s'est déchirée le voile, une seule flamme unit toutes les étoiles.
Nous venons d'entendre les mots du blues, et puis tout de suite après, c'est la voix de François Cheng, l'écrivain, le grand poète, qui nous lisait un de ses poèmes qui s'intitule « Nuit qui réunit ». Or, dans votre ouvrage, Trinh Xuân Toan, vous faites appel beaucoup à la poésie.
À la mystique, à la spiritualité aussi.
Oui.
Alors, François Cheng parle, oui.
Est-ce que l'attrait de la nuit nous élève, selon vous?
Oui, je suis tout à fait de cet avis. Parce que je pense que l'univers tend vers une vie de conscience. Un univers qui est vide et stérile, où il y a aucune forme de vie et de conscience, pour apprécier la beauté et l'harmonie de l'univers, pour moi, n'aurait pas de sens. Donc, en fait, nous sommes liés à l'univers et lui donnons un sens aussi en le comprenant et en l'observant et en lui donnant un sens. Pour nous, l'univers tend vers la vie et la conscience, pour moi.
Donc vers la lumière.
Vers la lumière, oui, la lumière de ce qui est créé, la lumière, que la lumière soit au début, je vous ai dit, un vide rempli d'énergie. Et puis aussi, la lumière de toutes les centaines de milliards de galaxies, chacune contenant centaines de milliards de soleils. Donc tout ça, c'est la nuit met en évidence la lumière, comme je vous disais tout à l'heure. Il faut la nuit pour la lumière.
Il faut la nuit pour la lumière, il faut la nuit pour pouvoir créer, y compris en peinture. Et à l'intérieur de ce livre, vous citez beaucoup de peintres. Je n'en citerai que deux, Marc Rothko et puis aussi
Van Gogh.
Alors Van Gogh, notamment évidemment cette toile qu'on connaît tous, qui s'intitule « Nuit étoilée sur le Rhône », accompagnée de cette phrase de Vincent Van Gogh à son frère, où il dit « J'ai un besoin terrible de religion. Alors je vais la nuit dehors pour peindre les étoiles. » Et moi, je vous propose d'écouter la voix d'un autre peintre bien vivant, qui a aujourd'hui 100 ans, qui s'appelle Pierre Soulages et qui peint le noir. On écoute la voix de Pierre Soulages à propos de ce noir qui donne la lumière. On l'écoute, c'était en mars 1979 et c'était au micro de Jacques Chancel.
Le noir dans la peinture, d'abord, dans la peinture, il n'y a pas de couleur.
Le noir est en couleur.
Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de couleur telle que le noir. Je veux dire que dans la peinture, il n'y a que des relations. Et quand je dis le noir pour la lumière, c'est parce que c'est la couleur la plus violente, c'est la couleur la plus puissante et qui fait jaillir de la toile elle-même, qui crée dans la toile elle-même une lumière et qui est une lumière née des relations de couleurs, une lumière intérieure, une lumière qui finalement n'a pas grand-chose à voir avec la lumière du jour, la lumière physique qui est celle qui est sur les objets. C'est une lumière autre, c'est une lumière picturale, c'est aussi une lumière intérieure. Finalement, les rapports qu'il y a entre la lumière picturale et la lumière telle qu'on la comprend et telle qu'on la voit sur les objets, ce sont des rapports aussi lointains que ceux qu'il y a entre l'espace pictural, l'espace du dedans d'une œuvre picturale et l'espace dont rencontre la perspective.
Oui, mais alors on a donné quand même de mauvaises couleurs au noir, parce qu'on en a fait la mort. On en a fait la tristesse.
Oui, c'est vrai, mais enfin, le noir, oui, parce qu'on pense d'abord, un noir, ça n'existe pas. Un noir, ça a toujours une forme, et c'est toujours sur un fond, et c'est toujours à côté de quelque chose.
C'est toujours la couleur du deuil.
En Chine, c'est le blanc.
Alors, le noir et le blanc.
Le noir et le blanc, oui, mais il n'y a pas un seul noir. Et comme je vous le disais, un noir, c'est un rouge, un rouge rond n'est pas, pour un peintre, le même rouge que le même rouge triangulaire.
Nous venons d'entendre la voix de Pierre Soulages. La nuit, c'est forcément le noir, Trinh Xuân Thuan.
C'est le noir, mais au milieu de ce noir, il y a d'innombrables points de lumière. Et pour moi, c'est ça la nuit aussi. C'est ces milliards de galaxies contenant des milliards d'étoiles. C'est des milliards d'étoiles qui sont nos ancêtres les plus directs, qui ont fait les atomes dont nos corps sont faits maintenant.
Vous nous faites voyager à l'intérieur de ces observations que vous avez la chance de faire dans les lieux les plus retirés du monde pour pouvoir observer les pouponnières célestes.
Tout à fait.
J'aimerais beaucoup aller dans une pouponnière céleste avec vous, Trinh Xuân Thuan, mais je crois que c'est très compliqué. Et si je vous ai bien compris, en fait, durant ces expéditions nocturnes que vous attendez pendant des années pour pouvoir observer la nuit, le moment que vous préférez, c'est l'aube. Pourquoi ?
Oh, je dirais pas que c'est le moment que je préfère. C'est seulement la fin de la nuit parce que elle annonce le lever du soleil, mais où je vais aller dormir, récupérer des forces pour la prochaine nuit, vous voyez, parce que c'est toujours deux ou trois nuits d'observation. Donc, le soleil me redonne des forces pour recommencer à apprécier la nuit.
Ben merci infiniment, Trinh Xuân Thuan. On va se quitter avec un de vos choix, c'est Rainer Maria Rilke, Poème à la nuit.
Le ciel, grand, plein de retenues splendides, une provision d'espace, un excès de monde. Et nous, trop loin pour nous laisser façonner, trop près pour nous en détourner. Là-bas, une étoile tombe, et notre désir à la voir, d'un regard bouleversé, rivé à elle et pressant, quelles choses ont commencé, et lesquelles disparu. Quelles choses sont coupables, et lesquelles pardonnées.
Mon tour.
C'est avec Désarmée de Laura Cahen que nous allons nous quitter ce soir. Merci à Julien Gosselin pour ses lectures. Merci à vous, Trine, Xuan, San. Je rappelle que votre livre Une nuit est publié aux éditions de l'Iconoclaste et qu'un nouveau livre de vous vient de paraître intitulé Monde d'ailleurs aux éditions Flammarion. Merci à Julien Chabassu qui est à la régie technique ce soir. Merci à Elodie Royer, Céline Villegas, Iris Vertanessian. Merci à Lilian Allôme qui, comme chaque soir, a réalisé cette émission et à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux. Après le prochain journal d'information, vous avez bien sûr rendez-vous avec Mishka Sayas pour la suite de son Very Good Trip. Et j'espère que nous nous retrouverons demain.